Merci à l'équipe de Louange. Est-ce que depuis chez vous, dans le chat, vous pouvez, d'habitude quand on est ici tous ensemble, on applaudit nos frères, nos sœurs qu'on aime et qui sont là depuis tôt le dimanche matin. Alors je vous propose que dans le chat, vous puissiez montrer votre appréciation, les applaudir, leur dire merci, merci du fond du cœur pour votre service, votre cœur, pour la présence de Dieu. Et c'est vrai, c'est un honneur et avec zèle que je suis là devant vous ce matin. Et je suis persuadée que Dieu parle au travers des écrans, que Dieu est là, là où vous vous trouvez. Peut-être vous êtes seul devant votre écran. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas seul. Il y a Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là à vos côtés. Et que vraiment ce matin, on puisse ouvrir nos cœurs à ce que Dieu lui-même veut nous dire au travers de sa parole. C'est tellement précieux de pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu en cette période, quoi. Et je vais continuer cette série. J'essaye de me mettre à peu près au milieu pour que vous puissiez me voir. Je vais continuer cette série sur l'espérance ce matin. J'aimerais qu'on se rappelle, qu'on rappelle à notre cœur que en Dieu, cette espérance, elle ne dépend absolument pas de nos circonstances. Et ce monde a tellement besoin d'espérance, n'est-ce pas ? Je lisais un article la semaine dernière, je crois, la semaine, vous savez, où il y a eu l'annonce du second confinement. Je lisais un article, c'était un psychologue qui parlait et qui disait ceci. Il disait, on peut presque parler d'une dépression généralisée et subie par l'ensemble de la population en ce moment en France. C'est terrible de lire ces lignes, c'est terrible peut-être de sentir ce qu'on peut ressentir comme ambiance pesante en ce moment dans notre pays. Mais notre espoir, notre espérance, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est pas juste, vous savez, quand on dit j'espère que ça va bien se passer, ou j'espère que la pandémie va s'arrêter, ou j'espère que je vais pas tomber malade, mais je suis absolument pas sûre. C'est pas ça l'espérance que Dieu nous donne, c'est pas ça l'espérance que Dieu veut nous transmettre ce matin. C'est pas juste l'espérance d'un meilleur lendemain. C'est pas aussi, vous savez, ce qu'on a pu expérimenter il y a une semaine et demie, ce fameux mercredi soir où on était tous accrochés peut-être à notre télévision en attendant ce que le président allait annoncer. Et puis du coup, on se disait, mais j'espère que peut-être il va pas y avoir un reconfinement, j'espère que peut-être ce sera que le week-end, ou j'espère, mais je ne sais pas, voyez ? Et ça, ce n'est pas l'espérance dont la Bible parle, ce n'est pas l'espérance que Dieu veut nous transmettre. En fait, notre espérance, la Bible la définit comme quelque chose de confiant, d'une assurance, d'une attente confiante et même une attente avec la joie. Et c'est ça, mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes appelés à vivre et que Dieu veut nous transmettre ce matin. Et je prie vraiment que pendant que je parle, vraiment, il y ait cette transfusion du ciel qui vienne dans vos cœurs, qui retrouve l'espérance. L'espérance, c'est le mot « elpis » en grec, qui vient du verbe « elpo », qui veut dire « anticiper avec plaisir ». Il y a du plaisir, c'est l'espérance de quelque chose de bon. On sait qu'il y a quelque chose de bon pour nous aujourd'hui et demain, et même pour l'éternité. Et notre espérance, vous savez quoi, elle est tellement plus profonde, tellement plus grande. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de Dieu lui-même. Il ne faut jamais qu'on oublie que Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. C'est même une caractéristique de sa personne. Et en fait, elle est abondante. Ce n'est pas juste une petite dose d'espérance, vous savez, qu'on reçoit dans des moments où, allez, là, ça va mieux, je me sens plein d'espérance. Cette espérance, elle est abondante. La Bible dit, Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance, donc c'est sa personne, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance, pour que vous abondiez. Il y a une abondance, il y a quelque chose qui doit déborder de nous quand on a l'espérance que Dieu nous donne. Et donc, dans cette série sur l'espérance, en réfléchissant aux différentes facettes de l'espérance qu'on pourrait vous partager, on a réfléchi et Pasteur Rodrigue m'a demandé, vu que moi je suis la responsable de l'accueil de l'évangélisation ici à l'Église Clé, il m'a demandé de parler de l'espérance en lien avec l'évangélisation. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien entre l'espérance et notre façon de partager notre foi, notre façon de témoigner ? En fait, alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, la réponse est oui. Il y a un lien et c'est magnifique, c'est ce qu'on va méditer, étudier ce matin. Pourquoi ? Parce que ce que nous communiquons à ce monde, ce n'est pas juste un récit ou la preuve de fait, ou « ok, alors Jésus est mort, il est ressuscité, etc. » Ou ce n'est même pas même que notre propre histoire, mais c'est réellement quelque chose de vivant et de profond et de miraculeux qui est là dans nos cœurs. Et nous transmettons, avant même de transmettre des mots, on transmet la personne de Jésus qui est notre espérance. Et la Bible le dit dans 1 Pierre 3,15, si vous avez vos Bibles chez vous, je vous invite vraiment à ouvrir ce passage parce qu'on va y revenir tout au long de ce partage. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, dit ceci, « Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et faites-le avec douceur et humilité. La Bible, en fait, nous encourage à être toujours prêts. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en ce moment? Au mois de novembre 2020, qu'est-ce que ça veut dire? Soyons toujours prêts. Même en ce moment, même alors que nous sommes confinés, soyons toujours prêts. Quand je vois toujours, ça veut dire que même malade, même confiné, même submergé, même si peut-être il y a des soucis, il y a des inquiétudes, il y a même peut-être des soucis financiers, même dans la pauvreté. J'aimerais t'encourager ce matin, même dans ta situation, ton espérance, elle ne dépend pas de tes circonstances. Ton espérance ne dépend absolument pas de nos circonstances. C'est la vérité, c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Et au travers de ça, il ne veut pas nous accuser qu'on se sent peut-être, vous savez, un petit peu désespéré en ce moment. Il n'est pas là pour dire ça, il est là pour nous redonner à la place du désespoir l'espérance que seul lui peut mettre dans nos cœurs. Et en ce moment, nous devons être toujours prêts, toujours sur le qui-vive. Vous savez quoi, l'Esprit de Dieu, on l'a entendu ce matin, il est toujours là. Il n'est pas dépendant du fait qu'on puisse se réunir dans peut-être tous ensemble dans un lieu, même si nous aimons ça. Mais il est là dans chaque foyer, dans chaque maison, et il nous demande de ne pas oublier la mission qu'il nous a donnée. Il y a peu de temps encore sur cette terre, nous devons transmettre cette espérance à ce monde. Et toujours prêt, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être on pourrait penser que le fait d'être toujours prêt, c'est être toujours bien préparé, avoir fait toutes les études possibles et imaginables, avoir préparé, vous savez, toutes les réponses qu'on pourrait donner à ce monde, tous les contre-arguments, si jamais quelqu'un nous dit « mais non, moi je ne crois pas en Dieu, parce que ceci, parce que cela, comment on va répondre ?» Et c'est sûr qu'il y a des personnes qui étudient ce qu'on appelle l'apologétique. L'apologétique, c'est un mot savant pour dire l'art de défendre justement notre foi, notre espérance. Mais ce verset ne s'adresse pas que à des spécialistes, que à des gens qui auraient fait des doctorats, vous savez, en ceci ou en cela. Il s'adresse à nous tous parce qu'il nous dit « soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque, contre tous ». Tous ceux que nous allons rencontrer ont besoin qu'on parle de notre espérance. Et donc, est-ce que ça veut dire ça, être toujours prêt, ça veut dire avoir vraiment préparé des arguments? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que dans un autre passage de la Bible, dans l'évangile de Luc, Jésus il dit à ses disciples, vous savez quoi? Ne préméditez pas ce que vous allez dire. En fait, quand Jésus s'adresse à ses disciples, il les prévient que peut-être ils vont être persécutés pour leur foi, qu'ils vont être devant là où on les accuse. Et donc, les tribunaux, voilà, c'est le mot que je cherche. Mais il leur dit, ne préméditez pas votre réponse parce que le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faudra dire, mettra dans vos bouches. On voit ça dans Luc 21, verset 14. Donc le fait que Jésus dise ça d'un autre côté, ça veut bien dire que le fait d'être prêt... Ce n'est pas avoir tout prémédité, avoir tout préparé. Le fait d'être prêt, c'est plutôt l'idée d'être toujours disponible. Toujours prêt, toujours disponible, toujours motivé, toujours aussi obéissant. Ne pas, vous savez, avoir un switch dans nos vies qui est sur on parfois et sur off d'autres fois. Mais d'être toujours activé, toujours les yeux ouverts sur les personnes autour de nous. Et même en ce moment, même si on ne voit pas physiquement beaucoup de personnes, parce qu'on n'a pas le droit trop de sortir, mais par contre, dans notre esprit, dans nos pensées, d'être toujours sur le qui-vive, de savoir à qui je peux envoyer un texto, à qui je peux parler en ce moment, à qui je peux témoigner de cette espérance. Et le fait d'être prêt, d'être toujours prêt, ça m'a rappelé un souvenir pendant le premier confinement. Donc on fait un petit retour en arrière cette année. Pendant le premier confinement, j'ai découvert ce que c'était le télétravail. Et puis j'y ai pris goût. J'ai commencé à prendre des petites habitudes de, vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai commencé à... Donc je me lève, je reste en pyjama, tranquille, ou... Je bois mon café et en même temps je commence à travailler. Personne n'est là, personne ne me voit. Je ne suis pas maquillée, je suis décoiffée. Je suis dans un état pitoyable, comme le matin, quoi. Vous ne voulez pas voir ma tête au matin, ça c'est sûr. Mais donc je commençais quand même à travailler sur mon ordinateur et voilà. Mais ce qui se passait, c'est que vu que j'habite au rez-de-chaussée, dont mon propriétaire a la villa au-dessus de chez moi, on est dans la même maison, quoi, vous voyez. Et du coup, en fait, pendant le premier confinement, c'est sûr que je me suis un peu plus occupée de lui. Il a 75 ans, j'allais souvent le voir pour voir s'il allait bien, j'allais faire des courses pour lui, etc. Donc on avait pris cette habitude de checker quoi, si l'un l'autre allait bien. Et du coup, lui aussi, il venait beaucoup plus souvent qu'avant. Vous savez, avant, on était juste des voisins. Et puis là, pendant ce confinement, finalement, on est devenu la famille, quoi. On est devenu amis. Mais du coup, il pouvait débarquer à tout moment et toquer à ma porte et dire « Anne, comment ça va aujourd'hui ?» Ou je sais pas moi, « Anne, tiens, j'ai préparé ça, j'ai fait ça comme plat, si t'en veux, je t'en donne un petit peu pour ce midi et tout. » Mais du coup, ce qui se passait, c'est qu'alors que j'étais en télétravail, en pyjama et pas encore douchée, tout ça, eh ben, au bout d'une demi-heure, une heure, il était 9h, 9h30, j'avais comme cette épée de Damoclès sur la tête, je me disais « Oh mince, il faut que je me dépêche vite d'aller vite me doucher, d'aller m'habiller parce qu'il va débarquer. » Il va débarquer, il va venir toquer à ma porte presque tous les jours, quoi. Et c'est cette idée que ça peut arriver à tout moment, d'être toujours prêt, d'être toujours sur le qui-vive, de s'attendre. En fait, c'est l'état du cœur. Je m'attends à ce que Dieu m'utilise, je m'attends à ce que je puisse partager mon espérance. C'est ça, être toujours prêt. C'est être toujours zélé. Et ce matin, j'aimerais nous parler du zèle, du feu que Dieu veut nous donner, parce que vous savez quoi, si on doit partager notre espérance juste par devoir religieux ou juste parce que être chrétien, c'est bien, il faut évangéliser, vous savez quoi, ça va sonner creux, ça va être plat. Par contre, si c'est fait avec le zèle que nous donne le Seigneur, je crois que c'est ça dont on a besoin ce matin, de retrouver ce zèle pour partager notre espérance. Et le zèle, on en parle dans la Bible, dans ce passage très connu où il est question de l'armure que Dieu nous donne, vous voyez, dans Éphésiens 6. Il nous est dit « Ayez à vos pieds pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. » Et c'est ça dont il est question ce matin. C'est d'avoir cette attitude de « je suis toujours prêt, je peux partir, je peux marcher. » J'ai les chaussures de quoi ? Du zèle que donne l'évangile de paix. Je trouve ça intéressant. Le zèle, il nous vient d'où ? Il vient de l'évangile, de la réalité. On s'en est souvenu ce matin à la croix quand on a pris le pain et le vin. L'évangile, la meilleure nouvelle du monde, de l'univers. Que Dieu s'est approché de nous pour nous sauver. C'est ça qui doit nous rendre zélés. Et avoir les chaussures aux pieds du zèle de l'évangile, je me suis dit que les chaussures dans toute l'armure, vous savez, quand vous relisez dans Éphésiens 6, l'armure, donc il y a le casque du salut, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il y a la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, etc., la cuirasse de justice, et peut-être j'en oublie, et les chaussures du zèle de l'évangile. Et peut-être les chaussures, je dirais que c'est la partie la moins visible. C'est la partie, c'est les chaussures, quoi. Le reste est peut-être un peu plus glorieux. Mais vous savez quoi ? Sans chaussures, sans ce zèle, même si on a tout le reste de l'armure, qu'il y a un problème avec les chaussures, on ne peut plus avancer. On ne peut plus marcher. Et les chaussures étaient très, très importantes à l'époque romaine, quand les soldats se revêtaient de leur armure, parce que l'une des tactiques des armées adverses, et l'une des tactiques aussi, je crois, des Romains, c'était de... En fait, pour blesser les pieds des soldats, ils n'avaient pas encore les mines antipersonnelles, vous savez, qu'ils pouvaient mettre de partout. Par contre, ils avaient des autres tactiques. Ils mettaient des trous, ils mettaient des bouts de verre, des bouts de fer dans le sol, de partout, pour que les soldats se blessent les pieds. Et en fait, une fois qu'un soldat avait le pied blessé, le pied infecté, il ne pouvait plus aller au combat, il ne pouvait plus aller à la bataille. Et ça me fait penser à... Voilà, le reste de l'armure pouvait être tout neuf, en parfait état, Mais ça me fait penser que nous aussi, en tant que chrétiens, on peut être équipés, on peut avoir entendu des milliers d'enseignements, on peut savoir beaucoup de choses, mais si à nos pieds, si nos pieds sont blessés, c'est-à-dire si notre zèle n'est plus là, si on a un problème de feu, de zèle pour partager notre espérance, alors on est arrêté. Et peut-être j'aimerais encourager quelqu'un ce matin où tu te sens arrêté, tu te sens bloqué. Tu sens que tu as perdu ton zèle. Et ce matin, au travers de ce message, j'aimerais tout simplement laisser être un canal et laisser l'Esprit de Dieu, par sa puissance, te redonner ce zèle. Parce que sans ton zèle, si tu perds ton zèle, tu ne peux plus marcher. Mais avec le zèle, tu peux avancer. Et vous savez, la marche avec Dieu, il est question d'ailleurs d'une marche, ce n'est pas quelque chose d'immobile. On est appelé à être en mouvement. On est appelé à être en mouvement. Et des fois, on voudrait aller tellement vite qu'on voudrait courir ou quoi. Et on se retrouve bloqué et on n'avance plus. Mais le Seigneur te dit ce matin, remets les chaussures à tes pieds. Il y a une raison d'être pour ta vie. C'est, je veux que tu partages mon espérance. Ça te donne une raison d'avancer, ça te donne une raison de faire un premier pas. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin d'être professionnel de l'évangélisation. Tu as besoin d'oser faire le premier pas. D'oser faire un premier pas, de remettre les chaussures du zèle de l'évangile à tes pieds. Et en étudiant l'art de la guerre romaine et donc les soldats et tout ce qu'ils faisaient, j'ai lu que le seul moment en fait où ils enlevaient leurs sandales, c'était pour dormir. C'était au moment d'aller au lit, ils enlevaient leurs sandales. C'est-à-dire que ça nous fait réaliser que les sandales du zèle de l'évangile, c'est vraiment symbole de réveil. Et si on les enlève, on est en train de dormir. Et vous savez quoi ? On a besoin d'être réveillé en ce moment plus que jamais. L'Église de Dieu a besoin d'avoir ses sandales, d'être réveillée et de ne pas dormir. Vous savez quoi ? Le réveil, ce n'est pas des grands rassemblements où, avec beaucoup peut-être d'émotions, on chante et on pleure et on tombe et tout ça. Ça, c'est des bonnes choses, mais ça, ce n'est pas le réveil. Le réveil, c'est quand on a le feu chaque jour, le lundi matin, et qu'il n'y a plus l'Église autour de nous, mais qu'on est tellement en feu que quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas faire autre chose que de dire « Et toi, tu crois en Dieu ? Tu sais que moi, je crois en Dieu. Tu veux que je prie pour toi ?» Je suis désolée, je suis peut-être maladroite, mais est-ce que... Enfin voilà, ça déborde quoi. Même maladroitement, l'espérance, le zèle, il est là, il déborde. Et c'est ça, être réveillé. C'est avoir les chaussures au pied du zèle de l'évangile. C'est ça le réveil. Qui veut le réveil ? Même confiné, on peut envoyer un texto, on peut transmettre notre feu, on peut dire à quelqu'un que Dieu l'aime, que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu veut lui transmettre cette espérance. Amen ? Amen. Je me prêche à moi-même, je m'encourage moi-même. Ça me donne envie de pas m'endormir, de pas enlever mes sandales. Je veux pas enlever mes sandales, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où je les ai enlevées, où je me suis mis en mode off, vous savez, et où je vis ma vie en oubliant le désespoir de ce monde, de mon voisin, de peut-être si le seul contact que vous avez, c'est quand vous allez emmener vos enfants à l'école. Il y a les parents des autres enfants qui sont là, qui ont besoin d'entendre. Et j'aimerais que le Saint-Esprit nous le montre et mette un fardeau sur notre cœur. Parce que j'aurais beau, moi, vous le dire, vous le redire, il faut que ce soit Dieu qui mette ce feu dans votre cœur et qui vous en convainque. Vous savez, le zèle, souvent, peut-être on a eu, dans l'Église, on a cette image du gazélé qui est, vous savez, peut-être le jeune dans la foi, qui est tout feu, tout flamme, mais aussi un peu fou, qui en fait trop, peut-être, ou qui fait des choses très maladroites, ou même qui suit n'importe qui voilà, il n'y a pas de sagesse. Mais ce n'est pas ça, le zèle dont Dieu nous parle. Ne le réduisons pas à juste, vous savez, voilà, c'est cette personne un peu peut-être qui a besoin de grandir en maturité. Et ce n'est pas non plus être, vous savez, indépendant et décider, ben moi je suis zélé, moi je suis le seul zélé dans cette église, donc je vais faire les choses à ma manière. Je vais aller dans les rues et je vais parler, etc. Non, le zèle, il se vit au sein de l'église, au sein de la famille, de la communauté. Nous voulons être zélés ensemble. Et d'ailleurs, quand il y a un zèle et qu'on est ensemble, on se transmet encore plus le feu, je crois. Et on peut être très, 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 très réservé, très posé, très calme, les amis. Très, très calme, mais très zélé. En fait, le zèle, ce n'est pas juste une personnalité extravertie. Le zèle, il est pour chacun. le zèle, il est vraiment l'Esprit de Dieu en nous, qui nous donne envie d'aimer en action, de parler, de transmettre notre espérance. Et soyez encouragés, peut-être si vous ne pensiez pas que vous étiez quelqu'un de zélé, parce que vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes réfléchi. J'aimerais vous dire, le zèle, c'est aussi c'est la fidélité, c'est continuer chaque jour d'espérer malgré les circonstances et de transmettre notre espérance. Alors, soyons toujours prêts. C'est ce que ce verset nous dit, c'est ce que l'apôtre Pierre dit à une église qui vit des choses pas faciles d'ailleurs à l'époque. Il leur dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Et deuxième point, comment être toujours prêt ? Comment être toujours prêt ? On voit juste avant, dans ce verset de 1 Pierre 3,15, qu'est-ce que ça dit juste avant que l'apôtre Pierre dise « Soyez toujours prêts à vous défendre ». Il dit ceci, il dit « Ne craignez pas ce que les hommes craignent, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, et alors vous serez toujours prêts ». Et la parole de Dieu, elle est magnifique parce qu'elle nous donne la clé pour être toujours prêt. Non seulement elle nous dit « sois toujours prêt, sois zélé », mais elle nous donne aussi la manière d'y arriver. Et en fait, « sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur », c'est une seule phrase avec ce qui suit. C'est « sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, prêt à défendre ». Il n'y a pas de verbe « soyez prêt », il n'y a pas le verbe. C'est vraiment une seule phrase. D'un côté, il y a « sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur » et de l'autre côté, « être prêt ». Et l'un ne va pas sans l'autre. L'un entraîne l'autre. Sanctifier Christ, c'est quoi ? C'est reconnaître tout simplement qui il est. C'est se rappeler que son œuvre est la plus puissante pour nos vies. C'est se rappeler du salut. Vous savez, sanctifier quelqu'un, on le retrouve dans la prière du Notre Père. C'est que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire je reconnais que tu es saint. Je te place dans mon cœur à la bonne position. C'est-à-dire que peut-être des fois dans nos cœurs, il y a d'autres choses qui règnent. En ce moment, il y a peut-être d'autres préoccupations, il y a peut-être des craintes, il y a des choses qui sont là. Il y a des interrogations sur qu'est-ce que je vais devenir demain ? Est-ce que je dois prendre ce job, quitter ce job ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Et finalement, ça reprend le contrôle de nos cœurs, de nos pensées. Mais la Bible nous dit, remets Christ au centre de ton cœur, de tes pensées. C'est ça qui va faire fuir la crainte. En fait, l'apôtre Pierre, en disant ceci, il reprend en fait un passage de l'Ancien Testament et il l'adapte pour l'église, les églises auxquelles il s'adresse. Et donc le passage se trouve dans Ésaïe 8, versets 12-13. Il dit ceci, « Ne dites point complot toutes les fois que ce peuple dit complot. » Peut-être ça peut parler à certains en ce moment. « Ne dites pas complot toutes les fois que d'autres disent complot. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés, mais reconnaissez comme saint l'Éternel des armées. » Ça veut dire, c'est la même chose que sanctifier. Reconnaissez comme saint l'Éternel des armées, c'est lui que vous craindrez, lui qu'il faut redouter. Et donc, sanctifier Christ le Seigneur, non seulement c'est la condition pour être prêt à partager notre espérance, mais c'est aussi la solution pour ne pas craindre. Parce que ça dit bien ceci, ne craignez pas ce que les hommes craignent, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. J'aimerais vous encourager à remplacer la crainte de l'avenir, la crainte de l'homme, la crainte de tout, par la seule crainte de Dieu. Ça me rappelle cette prédication sur la crainte de Dieu qui continue moi-même de me travailler. Mais là, quand tu crains Dieu, tu n'as plus rien d'autre à craindre. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous rappeler ce matin. C'est ne crains pas en ce moment, ne crains pas. Mais par contre, sanctifie Christ de nouveau dans ton cœur, remets-le à la première place, remets-le sur le trône, vraiment. Il faut qu'il règne. En fait, il est déjà roi. Mais nous, on peut se décaler de là où il règne. Il faut se remettre sous son règne, il faut remettre Christ au premier plan, à la première place dans notre cœur. Parce que vous savez quoi, quand Christ siège vraiment dans notre cœur, quand il siège vraiment dans nos pensées, quand il est là, qu'il occupe toutes nos pensées tous les jours, alors la peur, elle s'en va. Et alors aussi, on devient prêt à partager notre espérance. Nos pensées ne sont tournées que sur ça. Et donc, je vous assure, les amis, que quand on est rempli continuellement de l'Esprit de Dieu, qui a d'ailleurs pour rôle de nous rappeler les enseignements de Jésus, de nous ramener à Jésus, eh bien, alors, on est prêt. Bien sûr qu'on est toujours en train de penser à de quelle manière je pourrais transmettre Christ qui est en moi. Alors, soyez encouragés. Là où vous vous trouvez ce matin, sanctifiez Christ, le Seigneur, dans vos cœurs. Refaites de lui votre Seigneur. Et une fois que cela est fait, c'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit, on va pouvoir partager notre espérance. Et j'aimerais vous donner 4 pistes pour le faire, pour partager votre espérance, pour qu'on puisse partager notre espérance. La première, c'est que pour évangéliser, on a besoin d'espérer. Pour évangéliser, on n'a pas besoin de tactique, on n'a pas besoin d'une nouvelle méthode, on n'a pas besoin d'une stratégie, on a besoin d'un cœur qui espère. Un cœur qui est rempli d'espérance. Pour évangéliser, on a besoin d'espérer. En fait, ne préparez pas vos arguments, préparez votre cœur. Deuxièmement, pour parler, on a besoin d'un changement de cœur. Finalement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pasteur Rodrigue nous a rappelé ça, je crois, dans la capsule vidéo de cette semaine. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a besoin que notre cœur soit bouleversé, changé, transformé. Et on a besoin de réaliser aussi la chose extraordinaire que c'est que Christ vit en nous. Vraiment, visualisez-le ce matin. Là où vous êtes, Christ est là, il est en vous. Il est dans votre cœur. Et d'ailleurs, où réside notre espérance? Ça dit bien, sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur. En fait, le cœur, c'est le lieu d'habitation de Christ. Et le cœur, à notre époque, peut-être c'est synonyme de d'émotion, de tomber amoureux, des choses comme ça. Vous savez, ça, c'est le cœur. Mais le cœur, dans la Bible, c'est bien plus que ça. C'est le siège, pas seulement des émotions, mais aussi de la volonté. C'est l'être entier, quoi. C'est le cœur. Et Christ est réellement dans votre cœur si vous lui avez donné votre vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Amen. Et j'aimerais juste m'arrêter 2 minutes pour donner l'occasion peut-être à quelqu'un qui regarde et qui n'a pas encore cette espérance. De simplement, vous savez quoi, c'est possible, c'est accessible pour vous d'avoir une transformation de cœur ce matin. Qu'à la place du désespoir, de la dépression, de la maladie, des choses qui vous ont blessé, votre cœur, il est comme ratatiné. Je prie maintenant que l'espérance de Dieu vienne. Vous pouvez accepter le pardon de Jésus et alors il vous donne un cœur nouveau, dit la Bible. Au lieu d'un cœur de pierre, un cœur de chair. Vraiment, acceptez-le. Décidez de suivre Jésus. Décidez de placer votre confiance en lui. Dites-lui, je crois en toi. La Bible dit, celui qui croit, il sera sauvé. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à suivre tout un cours d'études bibliques. Tu crois au Seigneur Jésus, crois qu'il est ton espérance, crois qu'il est mort pour toi, crois qu'il t'a pardonné tes péchés, et alors tu reçois cette nouvelle vie, tu reçois ce nouveau cœur. Et vraiment, si quelqu'un écoute cette vidéo et n'a pas encore fait la paix avec Dieu, n'a pas encore trouvé cette espérance, trouve l'espérance ce matin. Que l'espérance descende dans ton cœur. Au nom de Jésus. Troisièmement, pour partager notre espérance, pour être des transmetteurs d'espérance, on doit savoir en quoi on espère. C'est très très important parce que on peut espérer des fois dans quelque chose de faux ou même de mauvais, ou même des choses légitimes, mais qui finalement ne sont pas l'objet de notre espérance principale. Je m'explique. Je peux espérer, par exemple, moi en tant que célibataire, je peux espérer un mari. Je peux espérer me marier. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, c'est chouette, c'est bien. Mais l'objet de mon espérance, celle sur laquelle par contre je peux m'appuyer, c'est celle uniquement que je place en Dieu, en Jésus-Christ son Fils. L'objet en fait de mon espérance, c'est la personne et l'œuvre de Jésus. c'est la grâce, c'est son salut. 1 Pierre 1,13 dit « Tournez toute votre espérance vers quoi ? Vers la grâce qui vous sera accordée. » Rappelons-nous ce matin que Dieu est un Dieu de grâce, que son salut, il est pour nous, il nous a sauvés et il nous sauvera. Et le fait de fixer nos yeux sur ça, ça nous fait prendre de l'altitude. On n'est plus le nez dans les circonstances de cette terre, mais on sait comment l'histoire termine. Amen. L'histoire se termine, nous sommes sauvés. Nous sommes avec Dieu pour l'éternité. C'est la fin de l'histoire. Et ça doit nous donner une perspective sur notre vie sur cette terre. On est citoyens du ciel, en fait. On est là de passage. Toutes les choses qu'on accumule, toutes les inquiétudes, on ne les emportera pas avec nous. Ce qu'on emportera avec nous, moi j'aime cette image, on emporte avec nous les gens qu'on emmène au ciel avec nous. On est là sur cette terre pour emmener le plus possible de monde avec nous au ciel. C'est ça votre but, c'est ça votre espérance, c'est ça votre motivation. C'est ça ma motivation. Et je vous le redis, je me fais du bien en prêchant ce matin. Je veux que ma seule motivation chaque jour, c'est d'emmener le plus de personnes avec moi au ciel, tout simplement. Et y a que ça qu'on emmènera. Il n'y a que la foi, l'espérance et l'amour qui resteront. La Bible en parle. Et j'aimerais nous encourager ce matin à prendre de la hauteur, à voir comme Dieu voit. L'histoire n'est pas l'histoire de 2020, l'histoire est l'histoire éternelle. Nous sommes sauvés et nous pouvons transmettre cette espérance tant qu'il est encore temps. Il est encore temps, les amis. Il est encore temps, mais il est urgent de transmettre cette espérance. Et puis, la quatrième chose, je crois, pour qu'on puisse transmettre notre espérance, c'est qu'il faut qu'on donne un minimum envie. Et là, j'aimerais parler de la joie. La joie du salut. Vous êtes sauvés, vous avez été sauvés d'un péril énorme, d'une vie éternelle horrible, d'une séparation avec Dieu, de l'enfer. Et simplement, on se rappelle ces choses, parce que je crois que notre âme en a besoin. On a besoin de se rappeler et de refaire naître l'espérance dans nos cœurs et de refaire naître la joie. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui caractérise l'espérance. Vous savez, la foi et l'espérance, ce sont deux choses distinctes, même si franchement, c'est très lié. Si je vous demandais, c'est quoi la différence entre la foi et l'espérance ? Petite interrogation du dimanche matin. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est croire que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, n'est-ce pas ? Mais l'espérance, c'est quelque chose de plus qui s'appuie sur la foi. Et pour l'illustrer, j'aimerais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un papa qui dit un matin, on est un vendredi, et il dit, il a un fils de 6 ans. Et il dit à son fils, tu sais quoi, mon chéri, j'ai décidé de te faire plaisir ce week-end. Demain, c'est samedi. Et donc demain, on va aller dans un parc d'attractions. Le parc d'attractions préféré de cet enfant. Je ne donne pas de nom, comme ça, je ne fais pas de pub, etc. Mais, donc, cet enfant, quand il entend cette nouvelle, vous qui avez des enfants, je pense que vous pouvez imaginer. Comment dire ? Est-ce qu'il vous croit, votre enfant ? Ben oui, tout de suite. Hein. Tout de suite. Hein. Ça, c'est la foi. En fait, l'enfant, tout de suite, il sait que demain, il va aller dans ce parc d'attractions. Il le sait. Il s'imagine même, ok, on va certainement se lever vers 8 heures, et du coup, à 9 heures, on décolle et on va au parc d'attractions. C'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute. Il ne doute pas de son père. Il lui fait confiance. C'est la foi. Par contre, les bons qu'il fait, les cris de joie, et qu'il ne peut même plus faire la sieste tellement il est excité, il ne peut même plus s'endormir le soir d'avant tellement il est excité, et qu'il n'arrête pas d'en parler, et qu'il parle sur un ton, vous savez, je ne vais pas vous le faire parce que sinon je vais vous péter les tympans, mais « Ah, je suis trop excité, je vais y aller, je suis trop content, dadadadadada. » Eh bien ça, c'est l'espérance. L'espérance, c'est quand on croit que ça va arriver, mais avec la joie. On s'y attend avec joie. La foi, je sais que ça va arriver. L'espérance, je commence à m'en réjouir d'avance. Je m'en réjouis d'avance. Et c'est ça qu'on veut transmettre. Et notre Père céleste, cette fois, il est tellement encore plus fiable et encore plus fidèle. Et ce qu'il dit, c'est encore plus sûr et certain que ce qu'un Père terrestre pourrait nous dire. que quand il dit quelque chose, il le fait. Hébreux 10, 23, confessons notre espérance sans fléchir. Pourquoi ? Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et simplement pour conclure, j'aimerais qu'on se rappelle qui est notre Dieu, qu'on se rappelle les promesses qu'il nous a faites. Il nous a promis d'être là avec nous, donc il est là avec nous. On peut s'y attendre avec joie. On peut s'y attendre à chaque jour quand on va dans le lieu secret de le rencontrer. Il y a une anticipation, il y a une joie. Il a promis de nous sauver, il nous a sauvés. Il a promis qu'il reviendrait, il revient. Il revient. Il a promis, relisez toute la parole de Dieu, toutes ses promesses. Et ce qui est trop beau, c'est que c'est Christ qui est le oui et amène des promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Christ. Donc replaçons sur nos cœurs, replaçons dans nos cœurs vraiment la royauté de Christ notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que ce monde, il a tellement besoin d'espérance. Je crois qu'en ce moment, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de vous en convaincre. Vous le voyez, vous le sentez, n'est-ce pas ? Et il faut que ça brise nos cœurs. On ne peut pas être insensible. Ce monde a besoin d'espérance. Et on aimerait que pendant ce confinement, en tant qu'Église, on se lève ensemble, en fait. On va vous proposer d'ailleurs des initiatives pour partager votre espérance dans les prochains jours, les prochaines semaines. L'une de ces premières initiatives, alors regardez bien Workplace, c'est l'endroit, c'est le réseau social de l'Église et c'est l'endroit où on va transmettre ces informations. L'une des premières initiatives qu'on aimerait vous proposer, c'est d'écrire aux détenus qui sont en prison en ce moment, au travers du ministère de Olivier Villebrun, qui est aumônier de prison. On va, en tant qu'Église, les enfants, les adultes, les personnes âgées, écrire à ces détenus au travers de... En fait, ils reçoivent un journal toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et dans ce journal, on va écrire, par exemple, notre témoignage. On peut même être créatif, écrire un poème, et dessiner un dessin de la part d'un enfant pour transmettre notre espérance à ces personnes qui ont perdu leur espérance. Nous avons un rôle à jouer, même depuis chez nous, même par mail, on va vous donner les détails, comment ça va se passer. Vous allez pouvoir envoyer ça à Olivier. Et je vous invite vraiment à jouer le jeu, à vous engager aujourd'hui, à faire ces choses qui peuvent paraître, vous savez, minimes, mais qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Jésus peut se révéler au travers de votre témoignage, de ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez en ce moment avec Dieu, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais j'insiste sur le fait qu'on pourrait avoir mille et une initiatives, on pourrait avoir plein de bonnes idées, ou d'initiatives charitables, ou vous savez, même dans ce monde, même les personnes qui ne connaissent pas Jésus font des choses bonnes pour leur prochain. Par contre, si on n'a pas ce zèle qui revient dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et donc j'aimerais en conclusion faire un appel, et plutôt deux appels. En fait, on a besoin que nos cœurs soient comme tellement travaillés ce matin. Travaillés par l'Esprit de Dieu. Travaillés par son feu. On ne peut pas mettre le feu à quelqu'un d'autre si nous-mêmes on ne brûle pas. Saint-Esprit, on a besoin de ton feu ce matin. Et là où vous vous trouvez, vraiment, j'aimerais faire ce premier appel pour peut-être des personnes qui ont besoin de remettre Christ, son œuvre à la croix, son salut, sur le trône de leur cœur. Et on va prier, on va avoir un moment où je vous invite à fermer les yeux, à peut-être mettre votre main sur votre cœur, à dire « Oui, Seigneur, moi j'ai besoin de te redonner mon cœur. » Je sais que par mes propres forces, mon zèle, il va durer pas longtemps. Mon feu, il va s'éteindre. Mais que quand je remets Christ sur le trône de mon cœur, sur le trône de mes pensées, sur le trône de toute ma vie, que je lui donne tout, ma famille, mes inquiétudes, mes incompréhensions, alors le feu revient. Alors cette capacité, même au sein de la tempête, même au sein de l'épreuve, vous allez voir que ce feu, même si vous êtes malade, même si vous êtes dans une chambre d'hôpital, votre foi, votre espérance, elle va se voir, elle va déborder. C'est ça le miracle de vivre avec Dieu, c'est la paix et la joie au sein de la tempête. C'est l'ancre de l'espérance qui ne fait pas chavirer le bateau dans lequel vous êtes. Seigneur, viens toucher le cœur maintenant de mon frère, de ma sœur. Toi seul peux le faire, Saint-Esprit. Toi seul. Et Seigneur, tu vois nos cœurs. Et tu es touché quand l'un de tes enfants revient vers toi. Tu es ce Père qui court sur le chemin, qui accueille, qui ne dit pas, qui n'accuse pas, mais qui accueille, qui pardonne tout de suite. Si quelqu'un se sent bloqué, avait cessé de marcher, avait cessé d'avoir ce zèle, reviens vers ton Père. Reviens dans sa présence. Reviens auprès de son amour, c'est là que tu vas retrouver le zèle. Redonnons notre cœur à Dieu, redonnons toute notre vie. On n'est là que pour un temps très court. Arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps. Nous avons tout en Christ. Ne nous privons pas d'avoir Christ pleinement dans nos vies. Pour que cette espérance, cette joie, cette paix qu'on ne peut même pas expliquer, elle déborde. Elle déborde. Et deuxième appel, c'est pour toutes les personnes qui veulent se lever en ces temps. Nous discernons des temps, nous discernons les temps de la fin, les temps où l'amour du plus grand nombre va se refroidir, dit la Bible. Mais nous voulons être de ceux dont l'amour se grandit, dont l'amour, dont le zèle grandit. Seigneur, nous voulons être ce peuple en feu. Nous voulons être ces personnes qui ont tout donné pour toi. Qui même si on doit souffrir, Seigneur, on accepte de souffrir pour que ce monde soit sauvé. Pour que, vous savez, quand on dit ce monde, des fois ça nous paraît tellement trop grand. Mais j'aimerais vous rappeler que ce monde, il commence avec votre prochain, avec votre voisine, avec ce petit enfant que vous croisez, avec cette personne peut-être avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin de votre espérance. Alors levons-nous. Et engagez-vous devant le Seigneur à dire, Seigneur, je me lève. Je veux remettre les chaussures du zèle et parler de toi et être, même sans parler d'ailleurs, être tellement rempli de joie, d'espérance que les gens, ils viennent te poser la question. C'est même pas toi qui dois trouver une manière d'accrocher. Les gens vont te poser la question. L'espérance que nous avons, elle est tellement puissante. Réalisons-le vraiment ce matin, réalisons-le. C'est pas juste, on est un tout petit peu plus joyeux que les autres. On est un peuple à part. On appartient à un autre royaume. Et vraiment que par la puissance du Saint-Esprit maintenant, son feu revienne dans nos cœurs. Que là où vous êtes, sentez la présence de Dieu qui vous envahit. Qui premièrement vous redonne l'espérance à vous qui avez besoin pour ensuite la partager à d'autres. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et continuons à nous entretenir les uns les autres avec des psaumes, des versets, des hymnes comme dit la Bible. Continuons à être ensemble, à partager notre espérance, à nous souvenir les uns, à nous dire les uns aux autres, tu sais, il y a Christ en toi, il y a Christ en toi, espère. Pour que ce monde le voit en conséquence. Amen. Vraiment, je prie pour chacun d'entre vous et j'ai hâte aussi d'entendre les témoignages de ce qui va se passer juste parce que vous avez laissé le Saint-Esprit transformer votre cœur et que vous avez osé partager, défendre votre espérance. Que le Seigneur vous bénisse.